Manga, c'est la rencontre d'une chanteuse lyrique excentrique nommée Adelaide Supio et d'un groupe de musiciens animés par la culture d'Amérique latine autour d'un style musical totalement inattendu et inclassable. Le groupe est né dans une volonté de revaloriser et défendre le répertoire de la diva aux 4 octaves, Ima Sumac. Arapunga vous invite à voyager dans la jungle péruvienne, tantôt séduisante, tantôt dangereuse, à travers un répertoire dynamique, sauvage et surprenant, mêlant mambo et lyrisme.
Alors en cette deuxième journée au festival Du bout du monde, édition 2023, en ce samedi, nous recevons le groupe Arapunga, sur nos ondes. On reviendra d'ailleurs un peu plus en détail sur la signification de votre nom de scène tout à l'heure. Alors, ici, pour toi Adélaïde, donc Adélaïde et Pierre, on va vous laisser vous présenter. C'est pas une première, notamment pour toi Adélaïde, on y reviendra, puisque tu as déjà une relation un peu intime avec ce festival par rapport à un beau concours que tu as gagné l'année dernière. Alors la première question, c'est, donc vous êtes passé sur scène une première fois il y a quelques dizaines de minutes, vous allez repasser encore une deuxième fois. Quelles sont les émotions qui vous traversent suite au show que vous avez réalisé tout à l'heure là? Qu'est-ce qui vous traverse maintenant, Adélaïde?
C'était extrêmement fort pour ma part, parce que moi ça fait 10 ans que je fais ce festival, et du coup de l'autre côté quoi, vraiment en tant que festivalière, et de se retrouver sur scène, j'ai pas de mots en fait, les mots seraient très faibles, parce que c'est juste incroyable, me concernant en tout cas, parce que justement j'ai cette fascination pour le bout du monde depuis si longtemps, et que voilà, c'est complètement fou, c'est inattendu et c'est génial.
Pierre ?
De même, moi c'était un immense plaisir, c'était une grande découverte pour moi le festival.
Ouais, première.
Toute première, jamais été en spectateur ou en musicien, et je reviendrai avec grand plaisir, c'était formidable.
Alors du coup ce soir, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à ce que vous avez fait, ou est-ce que vous allez garder le même set et le même spectacle ?
On a une structure un petit peu similaire, mais il y aura des changements, parce que voilà, il faut aussi varier les plaisirs, même pour nous. Et donc il y aura quelques morceaux qui seront différents, mais grosso modo on retrouvera quand même le squelette.
Le squelette globalement. Au niveau instrumental, est-ce que ça change des choses? Donc bon, tu seras à la voix, mais on fera les présentations juste après. Est-ce que ça change quelque chose toi aussi, Pierre?
Non, pas du tout. Non, c'est même histoire, même effectif, juste un répertoire différent.
Alors on va passer maintenant sur les parcours personnels pour faire les présentations auprès de nos auditrices et nos auditeurs. Adélaïde, est-ce que tu peux te présenter un peu à travers ton parcours personnel et à travers l'instrument principal que tu utilises?
Ok, moi je suis donc chanteuse lyrique et j'ai fait mes études à Rennes et ensuite je suis partie à Bruxelles pour continuer. Et je viens de valider mon master, donc je suis grande maintenant.
En musicologie, non? Rien à voir?
J'ai fait musicologie, j'ai une licence. D'accord. De musicologie en plus d'un DEM de chant que j'ai validé à Rennes. Et là, c'est un master d'interprétation de chant au Conservatoire Royal de Bruxelles.
D'accord, donc c'est vraiment très spécifique. Tu as fait ce choix d'aller à Bruxelles parce qu'en France, il n'y avait peut-être pas l'équivalent.
Si, il y a l'équivalent, mais en fait, j'avais envie de partir à l'étranger pour continuer ce parcours. Mais en même temps, j'aimais bien le confort de rester dans un pays francophone. Donc, en gros, ça limite d'office beaucoup les choix. Et en gros, Suisse ou Belgique. Et j'étais fort attirée par l'esprit belge. Fort attirée, ouais, forcément. Non, c'était pour moi le premier choix. Et j'ai passé l'audition, ça s'est super bien passé et voilà.
Ça c'était quand? C'était au mois de juin là? C'était récemment?
Oui, je viens de valider en tout cas mon master là tout juste, ouais. Donc ouais, merci.
C'est cool, comment les choses s'enchaînent, hein.
Oui, ça va très vite en fait. C'est cool. Ouais, c'est ça, il y a un truc.
C'est cool. Et toi Pierre, ton parcours et l'instrument que tu joues?
Alors moi, donc, je suis batteur percussionniste. Je suis actuellement à Bruxelles aussi, ça va être ma 5e année à Bruxelles. Mais je suis d'origine française, j'ai fait mes études à Lyon et en Savoie, et voilà, j'ai décidé de partir à Bruxelles aussi pour diversité musicale, le milieu culturel qui est très vivant là-bas, tout ça.
Et d'où t'es venue cette passion pour la batterie?
C'était par hasard, j'ai pris un instrument au pif dans mon école de musique, dans mon tout petit village de Savoie, et voilà, et je l'ai gardé parce que c'est ce qui me permet d'explorer énormément, vu qu'il y a les percussions aussi, et que je peux faire énormément de choses que j'aime avec le même instrument.
C'est chouette. Est-ce qu'on peut faire une présentation des autres membres du groupe qui ne sont pas présents et présentes avec nous, mais est-ce qu'on peut le balayer vite fait, leur instrument?
Oui, vas-y.
Pierre.
Alors, on fait la section rythmique. On a Anaïs Moffard qui est à la contrebasse et basse électrique, qui est belge. C'est notre membre belge. Voilà, c'est notre caution dans le groupe qui nous permet de vivre à Bruxelles avec dignité. On a Alexandre Essabi à la guitare électrique et aux effets, le magicien. On a la section cuivre avec Alice Ribeyrolle, Gaspard Matelin et Karen Van Schack, qui est hollandaise, voilà. Les restes sont françaises et français. Et j'ai fait le tour.
Ouais, bah,
c'est ça.
Efficace, hein. Un très beau métissage franco-belge, voilà. La rencontre est membre du groupe, alors comment elle s'est faite? Alors on peut peut-être déjà anticiper en se disant une rencontre à Bruxelles, en Belgique, ou alors pas du tout?
Oui, rencontre à Bruxelles, clairement. Pour certains d'entre nous, c'était au conservatoire, dans le cadre de nos études. Et d'autres se sont rajoutés un petit peu, je pense notamment à Karen, qui était une des seules saxophonistes baritons et flûtistes à pouvoir tenir le rôle dans le groupe, parce que ça ne court pas quand même les rues. Donc voilà, elle, c'était par le biais d'une amie. Et clairement, on est super content de l'avoir parce que c'est, encore une fois, tout le monde ne fait pas ça, quoi. Switcher d'un instrument comme ça à l'autre dans un même concert, parfois dans un même morceau, c'est une performance.
Et du coup, vous jouez, vous vous produisez régulièrement dans d'autres structures. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu en termes de tournée?
Oui. Alors là, on a deux dates après celle-ci. On fait la grande majorité de nos dates à Bruxelles et en Belgique. Et voilà, depuis cette année, donc le groupe a un an dans sa formation actuelle, telle qu'il est. Et donc, on commence à passer un peu la frontière, à aller jouer en France, ici en Bretagne ou dans le nord de la France. Voilà. Mais principalement des dates en Bruxelles et à Belgique. Oula, à Bruxelles et en Belgique, pardon.
T'inquiète, ça passe. Alors du coup, par rapport à cette tournée, donc la Bretagne, forcément, c'est une terre de festival. Il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de choses qui se passent l'été. Comment s'est faite la connexion, justement, pour revenir ici? Voilà, on va parler peut-être un peu de ton parcours d'année dernière à Adélaïde, pour faire le lien.
Oui, très beau lien.
Ouais,
non, mais oui, c'était... Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai participé à un concours de déguisement avec l'optique de gagner ce concours de déguisement exclusivement. Je ne voyais pas ça plus loin. Donc, je suis arrivée déguisée en reine de la nuit en me disant que j'allais chanter pour des festivaliers majoritairement bourrés. Donc, ça n'avait pas trop d'incidence. J'ai juste vérifié que ça avait les notes le matin en sortant de ma tente. Et je suis allée chanter. Et en fait, ça a marqué et plu énormément. Et ça a été fou parce qu'il y a Guillaume, un des programmateurs, ouais, qui m'a entendue et qui m'a proposé de venir chanter sous le chapiteau, Cabaret Seb, et de chanter la reine comme ça en direct de manière totalement...
Donc c'est ce que tu as fait.
Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ouais, ce que j'ai fait.
Sans
et
aucun
ça...
orchestre, rien du tout, sans aucun instrumental.
En fait, non, c'était ça, c'était pour le concours, j'avais prévu un enregistrement, d'accord, mais YouTube, hein, de
ouais.
Karaoké de la reine de la nuit. Autrement dit, on était sur un truc très préparé. Et donc du coup, on a remis ce même enregistrement sur scène et voilà, et c'était parti. Et Guillaume nous a recontacté du coup après, dans le courant de l'année, pour nous demander si on avait, enfin si j'avais justement un groupe qui pouvait passer pour le bout du monde, pour le festival. Et bon bah voilà, il y a forcément Rapanga, quoi.
Alors justement, par rapport à Rapanga, toi Pierre, tu connaissais déjà un petit peu la Bretagne, un peu cette terre de musique?
Oui, complètement. Je suis déjà venu plein de fois.
Tu es venu dans un cadre plutôt familial ou avec des amis, ou peut-être même pour faire des festivals en tant que festivalier?
Non, c'est la première fois que je me produis en Bretagne, mais je suis beaucoup venu avec ma famille en touriste. Quoi. Voilà,
ouais. Donc là, tu reviens en tant qu'artiste. Justement, les différences d'ambiance peut-être entre la Belgique et la France, on retrouve beaucoup de similitudes chez le public en général, chez la réception de l'œuvre chez le public?
Oui, clairement, il y a un pont entre les Bretons et les Belges.
Ouais.
On n'est pas dépaysés, ça c'est
cool.
Ouais, c'est une énergie excellente, quoi. Enfin, il y a un truc que le public donne, je pense qu'on n'a pas ça partout. Non, c'est une chance, vraiment.
Alors, on va rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet par rapport à votre processus de création. Alors, durant nos recherches, on a vu que vous appuyiez sur une artiste qui s'appelle Ima Sumac,
ouais,
pour bien le prononcer, une artiste péruvienne, semble-t-il. Est-ce qu'on pourrait parler des raisons qui vous ont poussé à s'intéresser à son œuvre et à cette personnalité?
Moi, j'ai découvert Imasumak après une jam qui était ouverte en fait à tout style, ce qui est assez rare. En général, il y a des jams qui existent, mais c'est jazz ou musique latine, etc. Là, c'était vraiment tout public. Donc, il y avait des musiciens classiques, il y avait des jazz, il y avait des baroqueux, oui, même eux. Et c'était ouais, une grande diversité. Et donc, à un moment, il y avait un rappeur qui était en train de chanter et j'ai commencé à faire des notes très hautes pour l'accompagner. Et il m'a donné le micro, j'ai pas voulu le prendre, il me l'a mis dans la main, il est parti, donc je me suis retrouvée comme ça un peu, et à faire, bon bah, plus choix, j'y suis allée. Et il y a un ami qui est venu et qui m'a dit, mais est-ce que tu parles un ami maintenant, qui m'a dit, mais est-ce que tu connais Imasumak? Et j'en avais jamais entendu parler, ouais, c'est ouais. Inconnu au bataillon. Et il m'a dit, mais viens, je vais te faire écouter. Et coup de foudre, quoi, je me suis dit qu'il n'y avait pas moyen que je passe à côté de ouais, ça, quoi. Ouais. J'étais hyper inspirée. Je trouve que c'est le chant lyrique, c'est quelque chose qui commence un peu à se perdre, qui est un peu désuet. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a une couleur et une richesse, un truc à explorer. Et je trouve que de mélanger comme ça à des styles aussi éloignés que le mambo, c'est juste complètement fou. Et Imasumak l'a fait. Et donc forcément, pour nous, c'était du pain béni, quoi. C'est génial. On lui doit tout.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu des messages qui étaient véhiculés par Imasumak à son époque? Parce qu'elle est née en 1922, donc ça fait quasiment 100 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'on a une petite idée des messages qui étaient véhiculés ou peut-être des conditions sociales dans lesquelles elle s'exprimait?
Alors, Imasumak, c'est une personnalité du coup qui a éclos durant les années 50-60. Donc, c'était dans un contexte assez colonialiste, on va pas se mentir. Et elle a pu en fait émerger parce qu'elle est allée dans un style que l'on appelle exotica. C'est un style qui crée en fait une ambiance exotique, donc pour le public. Donc ça peut être autant avec des instruments de musique, ça peut être par des instruments différents, des bruits, des sons. Mm-hmm. Et c'était dans le but de faire voyager le spectateur. Et Imasumak, en fait, elle a un peu surfé sur la vague, elle a débarqué comme ça, et ça a été une des premières à aller dans ce genre en utilisant sa voix. Et donc il y a tout un truc où elle a cherché des sons qui sont juste pour moi infaisables, on va pas se mentir, j'y arrive pas à la cheville. Elle fait des trucs, c'est incroyable. Et après, politiquement, son positionnement pour moi est assez compliqué à comprendre parce que justement c'était un personnage, enfin je pense qu'elle avait pas cette liberté de pouvoir s'exprimer exactement mm-hmm. comme elle le souhaitait. Elle a été beaucoup drivée, notamment ouais. par son mari, pour la faire rentrer dans un marché, moule, quoi, clairement, dans un moule. Elle a répondu à des demandes qu'on lui demandait concrètement. Ce qui fait qu'elle s'est tapée une mauvaise réputation, en fait, même par rapport aux Péruviens. Certains intellectuels ouais. péruviens l'ont fortement renié. Ce qui fait qu'en fait, elle a disparu, je pense, aussi pour ça. Au Pérou, il y a Grande Chabuca, par exemple, qui a des pièces de monnaie, qui a des statues à son effigie, qui est devenue une grande star. Et Imasumak aux oubliettes, parce que justement, elle a dérangé, en fait. Il y a eu un truc où on lui a reproché de s'approprier, en fait, une culture et de la saccager, quoi. Alors qu'elle s'est émancipée. Et en plus, elle a rallié la cause avec quelque chose qui était, avec des guillemets, noble à l'époque. Donc vraiment une voix un peu plus lyrique, qui appartenait donc à une culture dominante, ouais. bourgeoise, quoi. Et donc elle a relié ce truc-là. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant pour moi, c'était justement de faire le chemin inverse et d'avoir ce côté, moi, la culture classique, et de la redonner un peu... dans une culture un peu plus populaire, et c'est des ponts, en fait, on fait des allers-retours.
Est-ce qu'un jour, peut-être que ça a déjà été fait, un voyage en Amérique latine pour reprendre le répertoire, ce serait un peu un rêve pour le groupe?
Complètement. Ouais. Moi, je rêve de pouvoir aller rencontrer des gens qui la connaissaient de près et de loin. J'ai commencé un peu des recherches sur elle. Il y a très peu en fait de documentation, ah ouais, mais il y a des gens qui la connaissent. Il y avait notamment une petite interview qui avait été, enfin non, un article qui avait été fait par la fille d'une des meilleures amies d'Imasumak, et qui a appelé sa fille Tsoïla, le vrai nom d'Imasumak, en référence à cet artiste-là, et qui en parle et qui explique justement que c'était quelqu'un en fait qui était qui avait souffert de cet éloignement et de ce rejet. Et qui était en fait amoureuse de sa culture et qui avait juste à cœur de la partager.
Ouais. Ça fait résonance pour des musiciens aussi, justement, tout cet aspect assez fort, assez puissant, interne, lié à une époque.
Oui, complètement. Et puis ça permet aussi, en connaissant toute cette histoire, de jouer la musique plus justement et de l'incarner beaucoup plus et ouais, de jouer avec justesse. Quoi.
Parce qu'au niveau instrumental, du coup, on reprend aussi, alors au niveau de la voix, tu reprends Imasumak, au niveau des instrumentaux, c'est la même musique ou alors elle est un petit peu hybride, un petit peu changée ?
Elle est pas mal changée. Le répertoire d'Imasumak qui était surtout représenté avec orchestre. Orchestre quasi symphonique, percu, section vent, section cuivre, tout ça. Ouais. Et donc nous, on a plus un combo moderne de musique latine, ouais, avec section cuivre, petite section rythmique. Voilà. Ouais. Ça a un petit peu changé. On essaie d'avoir les mêmes couleurs, mais c'est un peu plus moderne.
Et est-ce que justement, à l'avenir, vous souhaiteriez peut-être avoir une tribune dans des festivals un peu plus dits latino ? Est-ce que c'est peut-être une volonté de s'intéresser peut-être à des festivals plus spécifiques ou vous souhaitez garder un côté très polyvalent dans les festivals, je ne sais pas.
Ce serait un plaisir hein, de ouais, jouer dans ce genre de festival, mais je pense que ce qu'on aime bien, c'est justement, y a beaucoup de musiciens jazz qui n'existent pas vraiment en fait, dans la musique d'Imasumak et que nous, on a eu à cœur d'apporter au projet aussi. Chouette. Et donc du coup, non, on n'a pas envie de se fermer un peu juste à essentiellement des festivals de musique latine, mais on a envie de rendre le truc assez vivant et de le faire évoluer dans plein de styles et de genres ouais, différents.
Chouette. Alors, est-ce qu'on pourrait maintenant venir sur la signification d'Araponga ? Alors, j'ai fait mes petites recherches, c'est un oiseau, voilà, on va pas dire d'insulte, voilà. pas de nom d'oiseau, mais du coup, la signification et l'origine de votre titre de groupe.
Oui, alors du coup, c'est vrai qu'Araponga, c'est un... Pardon, je me suis perdue.
Le titre.
Donc, en fait, choisir un nom de groupe, ouais, c'est extrêmement compliqué et on y a passé du temps et on s'était dit que voilà, on voulait rendre hommage à Imasumak ou y faire référence, mais on voulait pas non plus coller, enfin avoir le nom d'Imasumak vraiment collé au groupe, parce que on voulait aussi avoir cette possibilité d'évoluer vers notre propre musique. Et donc du coup on a commencé à essayer de faire des jeux de mots avec Imasumak très mauvais au début, donc on a essayé de très vite tomber cette piste. Ensuite on est allé dans tout son répertoire à essayer de chercher dans les noms de morceaux et pareil, il n'y avait rien qui nous plaisait vraiment. Et après c'est juste en écoutant une de ses chansons, je me suis dit mais on dirait un oiseau cette femme, et puis en plus elle revendiquait un petit peu ça, et du coup j'ai juste tapé sur Google oiseau Amérique du Sud, ouais, quoi, gros, c'était vraiment ça, claque. Et je suis tombée sur la Rapanga dès les premières recherches. Je suis tombée sur cet oiseau-là et séduite au premier coup d'œil, quoi. Un oiseau avec un physique peu notable, mais avec une voix absolument monstrueuse. C'est l'oiseau avec le chant le plus puissant qui existe sur cette terre. Et donc voilà, on s'est senti très inspirés.
Ouais. Ça fait l'unanimité dans le groupe et c'est passé crème pour tout le monde. Ouais. D'ailleurs, je vois que tu as un stylo plume dans la main, Pierre. C'est sans doute une référence à Araponga. Mais je crois qu'il est plutôt blanc.
Oui,
il est peut-être un peu moins orangé.
Oui, c'est ça.
Alors, on va finir cette interview en parlant un peu de vos projets, peut-être collectifs hein, et peut-être aussi individuels. Peut-être appartenez-vous à d'autres collectifs ou à d'autres groupes. Quels sont les projets ?
Généraux, quoi, vraiment
voilà,
tout.
Collectivement pour le groupe et peut-être individuellement.
Ok, collectivement pour le groupe, c'est d'enregistrer nos compositions.
Premier album.
On va commencer par un EP, hein. Pas. Et donc, l'idée, c'était un petit peu ça, donc de commencer à avoir un peu plus de matière sur les réseaux. Et après, personnellement, c'est de continuer à essayer de démocratiser le chant lyrique avec différents projets. J'ai des projets avec du théâtre, j'ai des projets plein d'idées. J'aimerais bien faire aussi un petit peu avec du cirque et tout. Enfin, il y a plein de pistes et plein de trucs.
T'as des contacts ?
Ouais. Et puis c'est des trucs, ça met du temps forcément à se construire, mais c'est des choses auxquelles je pense et ça commence doucement à prendre forme. Et sinon, j'ai aussi le pied dans la machine de l'opéra, parce que je suis dans les chœurs supplémentaires de la Monnaie, donc l'opéra de Bruxelles, et je suis aussi dans l'académie soliste. Donc ça me permet en fait de garder aussi cette ligne un peu plus trad.
Ça fait un bel emploi du temps à gérer, hein. Puis une belle préservation de sa voix aussi pour le coup.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est intense.
Pierre, les projets ?
Moi aussi, j'ai des projets à côté. J'essaie de me diversifier, pareil, de toucher théâtre, musique, jazz, tout ce qui est, tout est intéressant, donc tout m'intéresse. Et c'est pareil pour tous les autres membres et toutes les autres membres du groupe. On est très polyvalents, polyvalentes. Voilà, tout le monde a un peu. Si vous voulez des noms de tout le monde un peu, je sais pas si je saurais faire le tour de tout le monde, mais Je pense à Alice, la tromboniste, qui a son quintet de musique New Orleans traditionnelle de Louisiane, qui s'appelle Alice et les garçons. Il y a notre guitariste qui a son quartet aussi, quartet-quintet, à son nom, Alexandre Sabi Quartet. Karen qui est dans plein de projets avec du cirque également. On a Gaspard qui joue dans Bim Boum Bap, qui est un octet, si je crois bien, qui joue beaucoup à Bruxelles. Voilà, on a, j'espère que j'oublie personne. Si, il y a Naïs qui est dans Mama Liga aussi, qui est un groupe qui tourne beaucoup en Belgique. Et moi, pour ma part, je suis dans des projets de théâtre, des projets de jazz moderne, tout ça, voilà.
Bah, on continuera à vous suivre, en tout cas, hein, peut-être collectivement ou individuellement, en fonction des futures configurations dans les festivals du Grand Ouest ou ailleurs. Merci beaucoup à Rapanga, merci à Adélaïde, merci Pierre, et puis à très bientôt sur les ondes alternantes. Ciao, ciao.
Ciao.